Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il a été arraché de l'enfer, comme il le dit lui-même. Notre invité de ce matin a connu l'addiction à la drogue dure et miracle, a réussi à se relever, mais plus encore à devenir cette fois un grand amoureux de la vie. La vraie, un miracle qui crie sur les toits, spécialement dans les collèges et les lycées. Depuis maintenant plus de 10 ans, une mission, comme il le dit lui-même, qui lui a permis de rencontrer aux quatre coins de l'Hexagone des centaines de milliers de jeunes. Autant de rencontres qui lui donnent un point de vue privilégié sur l'état de la jeunesse aujourd'hui. Une génération à le lire, bien plus assoiffée d'absolu qu'on ne pourrait le penser. Laurent Guay, troubadour d'espérance, c'est donc le titre de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec vous, donc Laurent Guay, comme invité, vous êtes... Alors, c'est difficile de vous trouver un autre qualificatif que d'acteur de la nouvelle évangélisation et donc auteur d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions des Béatitudes, Troubadour d'espérance, de l'addiction à la mission. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence.
Voilà, merci de prendre du temps avec nous. Alors, vous êtes depuis Angers. Vous deviez passer dans notre région à l'occasion de ce temps de confinement. Vous avez eu un certain nombre de dates annulées. On s'est dit qu'on allait faire notre part pour vous soutenir dans cette belle mission qui est la vôtre. Et puis, pour parler donc de votre livre, ce n'est pas le premier. Vous avez donc écrit un ouvrage qui s'appelle « Arraché de l'enfer ». C'était en 2007. Vous en êtes à la 13e réédition, plus de 30 000 exemplaires vendus, et on imagine le nombre de lecteurs qui doit être deux ou trois fois plus élevé. Laurent Guay, c'est difficile de vous présenter autrement qu'un acteur de la nouvelle évangélisation, puisque c'est votre métier à temps plein. Comment vous vous présenteriez-vous ?
Alors, comment je me présenterais ? Ben, moi, j'aime bien missionnaire des cœurs. Voilà, missionnaire des cœurs, c'est-à-dire que pour moi, ma plus grande mission, c'est de pouvoir justement permettre à toutes les personnes que je rencontre de découvrir cette lumière qui est au fond de leur cœur, ce trésor, particulièrement dans le monde de la jeunesse. Voilà, missionnaire des cœurs, j'aime bien.
Alors, il y a plein d'autres expressions que vous utilisez pour vous-même. Vous êtes aussi un clown pour le Christ, dites-vous. Un gros déglingot dont Dieu se sert pour un trafic d'amour. Pour reprendre une expression de Thérèse de l'Enfant Jésus, qui elle, en tout cas, parle de commerce d'amour. Vous préférez trafic d'amour. Alors, trafic d'amour, ce n'est pas sans lien avec votre histoire. Cette histoire, vous la racontez avec générosité. Et on imagine que c'est bien difficile de parler tout le temps de soi et de raconter ce qu'il y a de plus intime, mais c'est difficile de faire autrement dans cette émission. Il faut qu'on fasse connaissance avec vous. Vous aviez raconté votre parcours arraché de l'enfer, c'était le titre de votre premier ouvrage. Vous en parlez un petit peu dans votre livre, mais là, fort rapidement, à un moment, vous parlez de Crackland à Paris, qui est donc dans le quartier, dans le 18e arrondissement de Paris. Est-ce à dire que c'est là-bas que vous avez été, vous aussi, à un moment, parmi les drogués de ce quartier?
Ah bah oui, voilà, c'était mon quartier. Donc moi, j'ai grandi entre Porte de la Chapelle et Porte d'Aubervilliers. Donc ce sont les portes du nord de Paris. Et les médias aujourd'hui appellent mon quartier les portes de l'enfer, en fait. Le crack étant un résidu de cocaïne mélangé avec de l'ammoniaque. Et du coup, il y a une population de dealers, de toxicomanes, de prostitution, de violence extrême. Et effectivement, c'est l'endroit dans lequel j'ai vécu de mes 2 ans à mes 17 ans, mes 18 ans même, puisque voilà, mes parents demeuraient encore là-bas il y a encore 15 ans, quoi.
Alors on imagine que vous n'avez pas été drogué toute cette période, mais qu'est-ce que vous avez connu quand vous dites « arraché de l'enfer » Cet enfer, ça ressemblait à quoi, Laurent Guay ?
Alors pour moi, l'enfer, en fait, c'est d'abord, c'est un mensonge dans lequel je me suis engouffré. Premier mensonge, c'est de croire que j'étais rien, croire que j'étais une erreur, croire qu'on ne m'aimait pas, croire que la vie ne valait rien. Ensuite, c'est la violence. La violence au quotidien par rapport à le harcèlement que j'ai subi déjà en primaire, et puis la violence après que j'ai rendue d'une certaine manière. Et à partir de ce moment-là, l'appartenance à un groupe de délinquants, un groupe de petits cons, excusez-moi l'expression. Et donc la violence de la rue, la violence de la drogue, voilà ce que j'appelle l'enfer, jusqu'à me retrouver dans des situations extrêmes, dans des squats, dormir dans la rue, la prison, les hôpitaux. Enfin bon, je crois que c'est malheureusement le chemin classique d'un toxicomane, quoi.
Alors la toxicomanie, on en reparlera à d'autres occasions et puis entre autres à la fin de cette émission parce que vous dites que dans cette jeunesse que vous rencontrez, il y a bien souvent des situations d'addiction diverses et variées. Sur votre route, vous avez semble-t-il croisé un certain nombre de personnes qui vous ont aidé à relever la tête en dehors de votre conversion sur laquelle on reviendra certainement. Vous parlez d'un certain Paul Emmanuel, mais de manière très discrète. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Paul Emmanuel, alors c'est un ami aujourd'hui. Hein. Il est engagé là où aujourd'hui il s'occupe des migrants. Et à l'époque où je l'ai rencontré, il était bénévole pour une association qui n'était pas du tout catholique, l'association AIDE, qui s'occupait des malades du sida. Et cette personne-là, c'est la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui avait de l'attention pour moi, c'est-à-dire quelqu'un qui m'a regardé, quelqu'un qui avait en lui une paix profonde, une joie intérieure, et puis surtout, je sais pas, il m'a donné envie d'aimer ma vie. Et pour moi, ça a été le déclencheur, je dirais, d'une histoire qui a commencé, l'histoire de ma vie qui a commencé à partir de ce moment-là, parce que j'ai eu confiance en cette personne. Je crois que c'est la première fois que j'ai eu vraiment confiance en quelqu'un. Il était donc habité de la présence de Dieu, et même s'il ne parlait pas de Jésus, je ressentais la présence de Dieu en lui.
Il y a un passage dans votre livre comme ça qui m'a fait sourire, enfin plusieurs, où vous dites que près de l'endroit où vous habitez en Vendée, il y a une montagne, le mont des Alouettes, c'est donc la montagne la plus haute de Vendée, 300 mètres, et qui vous arrive de temps en temps de vous mettre dedans et de prier, comme il est dit dans l'Écriture, pour que cette montagne se déplace. Alors jusque-là, elle ne s'est pas déplacée. Vous diriez que votre vie, c'est une montagne qui s'est déplacée, Laurent Guay, parce que vous êtes donc aujourd'hui ce missionnaire itinérant qui raconte l'histoire de sa résurrection. Fallait le faire quand même, non?
Alors oui, non, en fait, bien sûr que c'est une image, mais c'est vrai que j'ai pris la parole au sérieux, la parole de Dieu, la parole de l'Évangile, et je me suis mis devant cette montagne en disant, ben voilà, si, même avec peu de foi, hein, voilà, que je dise à cette montagne qu'elle se déplace. Et en fait, je me suis rendu compte que la montagne, les montagnes qu'on peut avoir, ce sont surtout les problèmes qu'on rencontre, les difficultés qu'on a. Et en fait, je pense qu'avec cette parole, nous pouvons prendre du recul et du coup, la montagne, en fait, va devenir plus petite et plus accessible et plus facile à surmonter. Voilà, c'est cette image-là qui est donnée dans ce livre. Et je crois aussi que nous pouvons, nous aussi, avec l'autorité que Dieu nous met, c'est-à-dire dans la foi que nous avons en Christ, nous pouvons aussi parler aux montagnes qui font obstacle à notre liberté. Hein, quand je parle des montagnes, et ben, voilà, toutes ces préoccupations, on peut demander à Dieu, avec autorité, hein, de chasser, hein, ces peurs, de chasser, voilà, ces doutes, etc., etc.
Alors
Voilà comment je...
vous Laurent Guay, comment ça s'est fait pour vous? Parce que donc c'est d'abord l'histoire d'une conversion, votre chemin, avant de parler de votre mission, ce qui vous a sorti de l'enfer de la drogue, c'est cette rencontre avec Paul Emmanuel ou c'est d'abord d'avoir rencontré le Christ et comment ça s'est fait?
Alors, en fait, moi, j'étais baptisé, mais non croyant. Hein. Mon père était athée, ma mère croyait à toutes sortes de croyances. Et moi, je croyais plus au mal qu'au bien. Et à un moment donné, une situation extrême, j'étais incarcéré en maison d'arrêt à Fresnes. Et tout était... Enfin, c'était la spirale infernale. C'était vraiment, là, je savais plus où j'en étais, mais vraiment, j'avais une angoisse terrible, une angoisse de mort, et j'ai laissé mes pensées être envahies de pensées de mort. Et je dirais, la première rencontre que j'ai faite avec le Christ, ça s'est passé en prison. En fait, j'avais une lame dans une main et je voulais m'ouvrir les veines, je voulais en finir. Et La seule chose qui me tourmentait encore plus que la peur de vivre, c'était de me dire où je pouvais atterrir après la mort. Et j'avais une peur de l'enfer. Alors j'ai demandé, si Dieu, tu existes, si Dieu, voilà, peux-tu me faire une place dans ton paradis? Et à ce moment-là, il y a eu vraiment ce cri qui est sorti de mes entrailles et qui a permis de faire une rencontre personnelle avec Christ dans les larmes et avec une image qui s'est gravée au fond de mon cœur. Cette image, c'était l'image du sceau de Turin et c'était ma première rencontre avec le Christ. Et après, en fait, ce sont des rencontres humaines qui m'ont mis sur le chemin de l'Église, qui m'ont mis sur le chemin, on va dire, de cet approfondissement de la foi, en fait. Parce que je crois qu'on peut pas être chrétien seul, en fait. Et c'est Paul Emmanuel, après, qui a été le premier instrument, et puis dans la communauté où j'ai été, et puis voilà. Après, Dieu a placé des instruments de miséricorde sur mon chemin pour me faire grandir en fait dans la foi, quoi.
Laurent Guay, j'imagine que c'est souvent une question qu'on vous pose, mais vous, il vous est arrivé cela. Vous diriez que vous êtes un miraculé, hein, vous le dites vous-même. Ce miracle, il peut arriver pour tout à chacun.
C'est le grand mystère que je poserai quand j'arriverai au ciel. Je crois que nous sommes tous rendus capables de Dieu. Et de ce fait, nous sommes tous rendus capables d'aimer et d'être aimés. Ça, c'est un fait. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à rentrer, à se projeter, hein, dans leur propre destinée? Ça, c'est la grande question que je poserai à Dieu. Il s'agit d'adhérer aussi. Je pense qu'à un moment donné, moi, je crois que j'ai donné tout mon oui, comme Marie, hein, j'ai donné toute ma vie en fait à Christ une fois qui m'avait sauvé. Alors, pourquoi Dieu ne sauve pas tous les hommes? Moi, je pense qu'il peut sauver toutes les personnes, je le crois sincèrement. Hein, maintenant, c'est la liberté de chacun d'accueillir ou de non accueillir. Cet amour qui nous est proposé, et malheureusement, souvent, ce que moi je rencontre, c'est tellement de blessures, tellement de blindages que des fois on n'accepte pas, on ne veut pas accepter cet amour que Dieu a répandu déjà pour nous, quoi. Donc voilà, c'est un mystère, hein, pourquoi, voilà, pour moi, c'est un mystère que Dieu me révélera, je l'espère en tous les cas. Mais je crois que chacun est rendu capable, encore une fois, de rentrer pleinement dans sa destinée.
Alors
Et je...
aujourd'hui,
Ouais.
pardon, aujourd'hui, Laurent Guay, donc vous avancez donc dans la vie, on va dire joyeusement, puisque c'est le titre de votre amour, Troubadour d'espérance. Les troubadours sont en général assez joyeux. Vous dites que voilà, vous êtes comme beaucoup de miraculés, un peu tous les jours vous pincez à vous lire pour vous dire que j'existe et je suis en vie et je suis heureux. Vous gardez quand même des traces. Vous dites que vous êtes porteur du SIDA depuis maintenant plus de 30 ans. Et puis vous avez une expression à propos de cette maladie. Vous dites que cette maladie, comment dire, vous en êtes vainqueur ou Dieu en est vainqueur depuis 30 ans. Quelle est l'expression? Je ne retrouve plus.
En fait, voilà, et voilà, quand je dis ça, je me moque de personne, hein, je sais ce qu'est la souffrance, mais j'ai dit, voilà, ça fait maintenant 30 ans que j'ai un sida provisoire. Voilà. Et que Dieu l'a déjà guéri, mais bon, après, ça m'empêche pas de me soigner, ça m'empêche pas. C'est mon combat aujourd'hui, je me bats aussi contre cette maladie, mais sans lui laisser, on va dire, m'envahir ou empoisonner mon existence. Voilà, moi je suis christocentré et c'est Dieu qui me permet d'avancer. Mais c'est vrai que rien que dans notre langage, je crois que le fait de dire, ben voilà, j'ai cette maladie mais qui est provisoire, déjà, hein, me permet déjà de me projeter déjà dans une guérison que Dieu fera de toute façon, puisque la plus grande guérison, c'est la paix dans son cœur, et donc Dieu l'a déjà fait, quoi.
Alors vous dites que vous avez chaussé des Doc Martens, que sous vos chaussures vous avez marqué des paroles sorties de l'écriture pour bien assurer votre zèle. Je prendrai juste la chaussure gauche, c'est tiré de l'épître aux Romains. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, Romains 16, 20. Aujourd'hui, donc, vous parcourez la France, ça fait plus de 10 ans, à la rencontre surtout donc de la jeunesse. cette jeunesse. Vous dites que vous avez rencontré plusieurs centaines de milliers de jeunes en tout, c'est ça?
Oui, c'est incroyable, mais c'est tous les jours en fait où je rencontre des groupes, ça peut être des groupes de 100 jusqu'à 500 personnes hein, dans des grands amphithéâtres, et ça depuis 10 ans, donc hors les vacances scolaires, mais c'est du temps plein, et donc ça fait une crédibilité par rapport à une génération que j'ai rencontrée depuis 10 ans, oui, c'est sûr.
Allez, on va en parler, on va faire une première pause et puis vous allez nous parler de cette jeunesse que vous avez rencontrée et probablement que vous faites partie de ceux qui en ont rencontré le plus aujourd'hui, donc qui ont un point de vue éclairant. Et puis vous les avez rencontrés, on va dire, en vérité, parce qu'il y a vraiment de nombreux dialogues que vous rapportez, de correspondances aussi que vous avez eues avec eux après, qui disent la vérité de cette rencontre. J'appelle le titre de votre livre Troubadour d'espérance, de l'addiction à la mission, paru aux éditions des Béatitudes.
Qué gran dolor, qué decepción. Cuando me necesitabas, te fallé. Aunque te desesperabas, tu dulce mirada atravesó mi frío corazón, que al verte se fácil es justificar mi error, girar la cara y no escuchar el corazón. Cuántas cosas cambiarían si fuese capaz de reconocer que no te supe amar. Sabor en mi interior, los momentos que pasamos inolvidables, ¿cómo podremos enterrarlos si es que el tiempo nos pone en un lugar donde hemos de estar para aprender? Qué fácil es justificar mi error, girar la cara y no escuchar el corazón. Cuántas cosas cambiarían si fuese capaz de reconocer que no te supe amar.
Laurent Guy, Troubadour d'espérance, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec donc ce même Laurent Guy, acteur de la nouvelle évangélisation. C'est ainsi que vous vous présentez, vous aussi, et donc auteur d'un ouvrage, Troubadour d'espérance, de l'addiction à la mission, paru aux éditions des Béatitudes. Alors Laurent Guy, vous êtes donc cet apôtre des temps modernes. Vous prenez vos Doc Martens, votre Bible et votre courage à deux mains, et vous allez à la rencontre de la jeunesse. Vous me disiez au début de cette émission, vous en avez rencontré beaucoup, hein, vous dites des centaines de milliers, ça fait plus de 500 000 kilomètres en plus de 10 ans. Cette jeunesse, alors vous en parlez, vous lui donnez la parole dans votre livre. Vous dites entre autres, les jeunes de moins de 25 ans ne sont plus du tout les mêmes que ceux des générations précédentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette jeunesse pour nous qui la croisons moins que vous?
Oh, tout simplement, en fait, les choses s'accélèrent énormément et je pense que Internet en est le principal acteur. Et du coup, nous avons une génération très connectée, une génération qui a totalement, je dirais, évolué au travers des écrans. Alors, est-ce que c'est une bonne évolution? J'ai peur que non, parce que ça les enferme. Le monde de l'image, alors bien sûr, hein, j'ai rien contre Internet, hein, le problème n'est pas là, c'est qu'il y a des enfants aujourd'hui, et je vois, hein, par exemple, la génération des 15 ans aujourd'hui n'est pas la même, de 15 ans, n'est pas la même de ceux de 20 ans. C'est-à-dire, en 5 ans, les choses se sont accélérées, et c'est pour ça que je dis que notre jeunesse n'est plus la même. Et du coup, les écrans, mais aussi ce Internet, c'est-à-dire que le monde est devenu un village et les connexions se font d'une manière extrêmement rapide et donc ce monde pour eux passe à 100 à l'heure. Et donc on pourra en discuter si vous voulez, mais du coup, pour moi, ce n'est pas du tout, ce n'est plus du tout la même jeunesse qu'il y a encore 15 ans ou 10 ans même. Ouais.
Alors, cette jeunesse, donc je dis donc vous en parlez, c'est vrai que on peut avoir des intuitions à l'égard de ce que vous nous dites. Si je continue la même phrase, vous dites la chose suivante: cette jeunesse est en manque de sens, de repères, on leur a donné les moyens de vivre sans leur transmettre des raisons de vivre. Est-ce que vous pouvez nous rapporter peut-être déjà quelques rencontres ou quelques visages qui pour vous sont justement emblématiques de cette jeunesse dont vous allez nous parler?
En fait, alors je suis désolé pour les auditeurs, hein, qui ne s'inquiètent pas, je suis un témoin d'espérance, mais il n'y a pas un établissement scolaire, et je vais uniquement dans les privés, puisque au nom de la laïcité, je ne vais pas dans le public, il n'y a pas un établissement scolaire où il n'y a pas eu harcèlement, abus sexuels ou tentative de suicide. Moi, j'ai appelé cette génération des moins de 25 ans une génération sacrifiée par une culture de mort. Et des lois de non-vie, en fait. Et donc, voilà, pour vous donner un exemple, il y a une jeune fille qui pendant toute sa scolarité au collège, on l'a traitée de poubelle. Le jour où elle a eu ses réseaux sociaux, c'était une déchetterie. Cette jeune fille a fait plusieurs tentatives de suicide. Grâce à Dieu, elle s'est loupée, mais elle est rentrée dans la scarification. Elle s'est inscrite tous les jours, la scarification, c'est de la mutilation. Elle s'inscrit tous les jours sur son bras le mot elle, qui signifie enfer. Et 4 cm d'épaisseur de cicatrice, et l'enfer, c'était ses camarades qui lui ont fait vivre. Et il n'y en a aucun, et ça c'est terrible d'entendre ça, aucun qui a pris sa défense, aucun qui s'est conduit comme un héros. Et je pense aujourd'hui que nos jeunes, ce n'est pas un plaisir extrême, hein, qu'ils ont besoin, ils le savent très bien, ils ont besoin d'actes héroïques. Et je pense que, voilà, moi je me fais le haut-parleur de cette génération qui souffre, et en même temps je mets le projecteur sur ceux qui rentrent dans leur destinée, ceux qui décident, hein, de chercher le bien au-dedans d'eux. Hein, je parle souvent, je donne le témoignage de Carlo Acutis, hein, qui a été béatifié, un jeune qui pour moi est un modèle pour cette génération, un jeune de 15 ans foudroyé par une leucémie, hein, qu'aujourd'hui on peut appeler saint, il y a des milliers de personnes qui prient, qui intercèdent pour ce jeune, et il avait une vie ordinaire, mais il a fait une rencontre d'un Dieu extraordinaire qui lui a permis d'avoir une vie, je dirais, héroïque dans le sens où il décidait de faire le bien. Et je pense que mon témoignage, c'est ça. Et j'ai énormément de témoignages, des petits mots, hein, de jeunes. Alors au niveau de l'anorexie, au niveau de la drogue, bien sûr, je vous en parle même pas. Hein, les écrans, la pornographie.
Alors, voilà, juste, ça, je pourrais... on va y venir justement, on va prendre le temps. Laurent Guay, on se dit en fait, de quoi vous leur parlez? Est-ce que vous leur parlez tout simplement de vous? En racontant donc comment vous avez été arraché de l'enfer et puis de la manière dont vous avez vécu aussi on va dire le milieu scolaire ou votre jeunesse. Vous le disiez en début d'émission et puis vous le rapportez dans votre ouvrage, vous aussi vous avez connu le harcèlement à l'école et la conviction que vous n'étiez pas grand-chose. Est-ce que vous diriez que, enfin, vous parlez de vous tout simplement?
Alors Oui, je parle de moi automatiquement puisque je suis un témoin, mais je vais au-delà du témoignage. Je fais ce qu'on appelle de la prévention, éducation, santé, pastorale. Je leur fais un coaching, on va dire, au-delà de la prévention, au-delà de mon témoignage, au-delà de ma propre histoire. Hein, j'essaye de leur donner des clés, hein, qui pourra leur permettre de s'élever dans ce bas monde, hein, de trouver leur grandeur. Et effectivement, pourquoi ils me font une totale confiance ou ils me partagent des choses qu'ils n'ont jamais dit à personne? Parce que moi, je me suis mis entre guillemets nu devant eux, c'est-à-dire que j'ai témoigné de mon enfant, j'ai témoigné de la violence, du harcèlement que j'ai subi pendant quelques années, de la violence d'une vie chaotique par rapport à la drogue. Et donc, quelque part, ils se sentent rejoints. Et donc, confiance. Et c'est pour ça que il y a un travail je dirais, qui est incroyable, parce que à partir du moment où un jeune exprime son mal ou ses mots, vous voyez, moi je leur dis toujours, ce qui n'est pas exprimé s'imprime. Et en fait, ils ont besoin, moi je libère la parole. Voilà, mon témoignage, mes interventions libèrent la parole dans les écoles.
Alors,
D'ailleurs, si je tourne depuis 10 ans dans les établissements scolaires, c'est que les chefs d'établissement ont bien compris qu'il y avait d'un côté la prévention et de l'autre côté, je dirais, quelque chose qui les fait grandir au niveau de l'estime de soi, au niveau de la confiance, au niveau voilà, de croire tout simplement, croire leur permet d'avoir confiance. Et
alors
que,
juste,
voilà, c'est un
Laurent
petit peu
Guy,
ça que j'en fais.
donc on lit des fioritis dans votre livre. En 1 heure, j'ai pu se réfléchir sur ma vie que toutes ces dernières années. Merci. Tu viens de
Incroyable.
sauver une vie. Merci. Un peu plus loin, vous avez répondu à toutes les questions que j'ai cherchées avec mon psy depuis plus d'un an. Merci. Il y a quand même quelque chose quand on lit tous ces fioritis puis ces mots que vous adressez ces jeunes, c'est qu'on se dit, mais c'est incroyable. En fait, ils n'ont pas d'autre espace que de temps en temps de rencontrer des gens comme vous pour dire ce qu'ils ont au fond des tripes.
Et oui, c'est terrible. C'est terrible. Vous touchez le problème. Ils n'ont pas d'espace. C'est-à-dire, il n'y a plus de dialogue en famille, ou alors très peu. Au niveau bien sûr, les écoles, les établissements scolaires font un boulot de vraiment incroyable, mais en fait, ce n'est pas le rôle non plus des enseignants. Et je crois qu'ils ont besoin d'authenticité, ils ont besoin de vérité, en fait, ces jeunes-là. Ils ont besoin de cet espace où ils peuvent dialoguer en vérité. Et c'est ça qui leur manque. Alors bien sûr, heureusement, il y a plein de points d'écoute, il y a quand même des choses qui se font. Mais c'est vrai que c'est incroyable d'entendre ça. Ils ont besoin de repères, en fait. Voilà, ils ont besoin de repères.
Alors,
J'essaie d'être ce repère.
parmi toutes les difficultés qu'ils rencontrent, c'est vrai que la liste serait longue. Peut-être avant qu'on en évoque d'autres, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi parfois que vous avez un peu on va dire le tropisme des psys ou des médecins, c'est-à-dire ceux qui viennent vous voir sont ceux qui sont malades et du coup à la fin vous avez une image de la jeunesse qui est peut-être un peu déformée, ou est-ce que la situation est aussi grave que vous le décrivez?
Non, 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 bien sûr que non. Je noircis un tableau parce que c'est une réalité. Mais je veux vraiment rassurer les parents, hein, qui nous écoutent, enfin les auditeurs qui sont peut-être parents qui nous écoutent. Personnellement, c'est une réalité. Maintenant, encore une fois, tout le monde ne se drogue pas, tout le monde n'est pas dans les images pornographiques, tout le monde n'est pas dans le harcèlement. Heureusement, Dieu merci. Mais il y a une réalité que je constate, et donc je m'en fais le haut-parleur. Maintenant, encore une fois, je mets aussi le projecteur sur tous ces jeunes que j'ai rencontrés qui, eux, sont entrés dans leur destinée. C'est-à-dire qui ont commencé à avoir des rêves. Ces rêves, ils se sont réalisés, ils ont donné un sens à leur vie, une place qu'ils ont trouvée, une mission, hein, qu'ils se sont donnée, où ils ont une raison d'être, de se donner cette mission, et particulièrement voilà, de s'élever. Voilà, donc, mais moi, je suis obligé, dans ce que je vois, de le dire, tout simplement. Maintenant, au niveau des statistiques, c'est très très dur d'avoir vraiment des statistiques. Mais par exemple, sur 10 jeunes rencontrés de 14-16 ans, hein, peut-être 5-6 ont goûté du cannabis, par exemple, là je parle juste de la drogue, hein, peut-être deux ou un vont rester, on va dire, d'une manière régulière, et malheureusement, mais c'est un de trop, hein, qui restera dépendant. Vous voyez, on est loin de quelque chose qui va toucher tout le monde, heureusement.
Alors, mais sauf si je peux me permettre de vous couper, pardon, hein, je vous vois pas, donc du coup c'est pas facile de reprendre la parole, mais sauf la pornographie, vous dites, en fait, vous avez, alors c'est pas forcément une statistique, hein, mais vous dites que vous connaissez de nombreux prêtres et que ils vous rapportent que plus de 80% des jeunes qui se confessent, ils se confessent de pratiques pornographiques. Ça, pour le coup, vous diriez que c'est un fléau qui touche presque toute la jeunesse?
Oui, garçons et filles. Pas toute la jeunesse, mais les statistiques que je vous ai données sont à peu près, on va dire qu'on est à peu près dans ces chiffres-là. C'est-à-dire à partir du moment où Internet est accessible chez un enfant, on va dire de moins de 13-14, automatiquement, il aura, alors peut-être pas la tentation, mais en tous les cas, il sera confronté par des images, où que ce soit ses copains. Et malheureusement, c'est ça le problème de la pornographie. Une image qui rentre dans sa petite tête, hein, va l'attirer, il va être dans cette recherche. Et du coup, là, pour le coup, ça les abîme pas mal parce que ce sont des images ultra violentes. On n'est pas dans des histoires, on va dire, romantiques, hein, mais on est dans du cash, on est dans une violence sexuelle. Aujourd'hui, les images pornographiques sont très très violentes, et du coup, nos jeunes, peuvent être vraiment attachés à ce genre de pratique. Et c'est pas un secret de confession, mais c'est vrai que la plupart des prêtres en confession vous disent que beaucoup de péchés sont liés à la pornographie. Ouais.
Alors, il y a une autre jeunesse que vous rencontrez aussi. Donc, c'est une jeunesse qui se lève. Vous parlez d'une génération qui se lève. Vous avez des expressions un peu comme le pape François. De temps en temps, Dieu cherche une génération qui fera la différence dans ce monde des héros de l'évangile, dites-vous. Un peu plus loin, les temps ont déjà commencé. Les nouveaux bâtisseurs d'un monde meilleur, assoiffés de justice et de vérité, sont présents. C'est pareil, si vous deviez commencer par nous parler de l'un ou l'autre visage ou circonstance de rencontre qui vous reviennent, cette génération, elle ressemble à quoi en contraste?
Ben, je crois que cette génération en contraste est une génération de saints et de saintes. C'est-à-dire avec une radicalité, alors attention dans ce terme-là, mais un désir tellement fort de chercher Dieu, de chercher à le beau, le bon, et là le contraste, on est vraiment entre la lumière et la ténèbre, hein. On est vraiment dans un contraste. Moi, j'ai vu des jeunes qui me, voilà, j'ai été dans une famille encore dernièrement, une jeune fille de 24 ans, voilà, qui s'est totalement engagée dans une congrégation fermée où elle ne verra pas ses parents, enfin une fois par an, mais une jeune fille tellement épanouie, et ce sont des jeunes qui ont au fond de leur cœur ce désir vraiment de sainteté. Et ça, c'est impressionnant. Avec un engagement, et ce sont des jeunes qui je dirais, élèvent les autres, hein, avec la passion qu'ils ont de la vie, la passion qu'ils ont de Dieu. Ce sont des passionnés de Dieu. Et donc, cette génération, en plus, est très créative. Et dans la musique, dans l'art, et c'est une génération qu'on voit aujourd'hui dans notre église qui porte les autres, et du coup, que ça soit aussi sur Internet, que ça soit dans des engagements de vie, dans des associations, etc., etc., ce sont des jeunes extraordinaires. Enfin, toute la jeunesse est pour moi extraordinaire, mais ceux qui sont rentrés pleinement dans leur destin, waouh, on pourra pas les retenir, ceux-là. On pourra pas.
Vous parlez de multiples réalités, hein, dont on parle à cette antenne assez régulièrement, entre autres de ce congrès mission là qui a lieu maintenant une fois par an et qui réunit un peu toutes ces initiatives missionnaires. Vous rapportez aussi certains des fruits de vos rencontres. Vous dites par exemple Martin, qui avait été confié par des amis à Paris pour écouter son votre témoignage et qui est devenu prêtre. Baptiste, rencontré à Nantes, et qui fréquentait les franciscains de Cholet, voilà, qui est devenu prêtre en Italie.
Il est prêtre aujourd'hui, hein. Il est
ouais.
prêtre.
Et puis vous citez Benoît XVI, vous dites que la chose suivante, alors ça va de soi, mais c'est autre chose de le vivre. La grande responsabilité des fidèles laïcs, c'est de préparer les conditions d'une rencontre avec le Christ. Et Benoît XVI qui dit « Le secret de la foi consiste en ceci, pour rencontrer Dieu, il faut rencontrer quelqu'un qui l'ait rencontré. » C'est si rare que ça pour tous ces jeunes de rencontrer quelqu'un qui a rencontré le Christ ?
Mais oui, parce que c'est rare dans le sens où on n'en parle pas dans les médias, on n'en parle pas dans les réseaux où ils ont l'habitude d'être. Alors bien sûr, hein, si ce sont des jeunes qui fréquentent les scoutismes, qui fréquentent la pastorale, qui fréquentent l'aumônerie, etc., etc., ils auront des témoins, ils auront des personnes qui vont entendre. Mais tous les autres, c'est Paul, saint Paul qui nous dit ça, la foi vient de ce qu'on entend en fait. Mais où ils vont l'entendre s'ils n'ont pas des témoins autour d'eux ? Et du coup, c'est vrai que pour une grande majorité, là pour le coup, une très grande majorité de jeunes, la foi est devenue, excusez-moi l'expression, mais has-been, hein, c'est-à-dire croire en Dieu aujourd'hui, si on n'a pas justement fait une rencontre, si on n'a pas rencontré quelqu'un qui peut nous parler de sa foi d'une manière passionnante, voilà. Et c'est pour ça que les témoins sont très très importants aujourd'hui pour cette génération. Les témoins de la foi sont très très importants. Oui.
Troubadour d'espérance de l'addiction à la mission, c'est le titre de votre livre. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver dans quelques instants, Laurent Guay.
On a tous mis une fois le pied où il faut pas et parfois. Misé sur un galasson et perdu des millions. On s'est tous cassé le nez sur une porte fermée sans rien piger. On y croyait dur comme fer, mais faut faire machine arrière. Fatigué, dégoûté, cabossé mais sur la pointe des pieds. Tu vois, c'est comme les saisons. Un jour vient la moisson. On sème et le grain au sol prend racine. On se dit, à quoi bon répandre des illusions. Et un matin, l'éclosion se dessine. Le poids du sac, la fatigue et le trac, et sans peine, on jette une autre poignée de graines.
Radio Présence à Belmont-sur-Rance, 93.1. Emmanuel Pella.
Laurent Guay, troubadour d'espérance, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin et presque le titre de notre invité. Laurent Guay, donc acteur de la nouvelle évangélisation, grand témoin comme on dit aussi. Je sais qu'en général les grands témoins n'aiment pas qu'on les appelle comme ça. Et auteur donc d'un ouvrage, Troubadour d'espérance, de l'addiction à la mission, paru aux éditions des Béatitudes. Dans votre livre, Laurent Guay, vous finissez votre livre et hop, vous le recommencez. Parce qu'il y a un long dernier chapitre sur les addictions et la culture de mort. Alors on a bien entendu que vous ne vouliez pas caricaturer une jeunesse, mais quand même, vous êtes crédible, et plus que crédible, puisque vous en avez rencontré, pour rappel, donc des centaines de milliers, dites-vous, que cette jeunesse vit en fait un grand combat, et entre autres donc le combat des addictions. Mais alors à vous lire, dans ce combat des addictions, il y aurait aussi un combat spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire, Laurent Guay ? Est-ce que vous mélangez pas un peu les choses ?
Non, enfin... Peut-être que je mélange les choses, mais en fait, pourquoi un combat spirituel ? Parce qu'encore une fois, nos jeunes aujourd'hui sont conditionnés dans, je dirais, une façon de penser un peu unique, et du coup, qui va opposer ou qui va les empêcher de vivre vraiment une vie Encore une fois, je reprends le terme une vie héroïque. C'est-à-dire, on est prisonnier dans un plaisir dans lequel nous sommes conditionnés. C'est-à-dire, aujourd'hui, la grande majorité des jeunes que je rencontre, c'est quand même entre 5 heures et 8 heures d'écran par jour, même pendant l'école. Et ça, déjà, en troisième ou en quatrième. C'est-à-dire, la première chose qu'ils font quand ils se lèvent, hein, c'est regarder s'ils n'ont pas des likes ou ce qu'ils appellent des flammes sur leur snap, hein, pour montrer qu'ils existent, en fait. Et pour moi, c'est ça le combat spirituel. C'est-à-dire que, en fait, malheureusement, hein, ça les empêche de s'élever, ça les empêche en fait d'avoir des passions, ça les empêche d'avoir des rêves. Hein, et bien sûr, encore une fois, c'est pas la majorité, mais si vous voulez, ça les coupe de l'effort. C'est-à-dire, moi, je rencontre des jeunes qui ont une capacité à faire des choses au niveau des études, et en fait, ils font le strict minimum. C'est pour ça que je dis, ils passent à côté de quelque chose. Hein. Alors bien sûr, ils vont s'en sortir, le problème il n'est pas là, mais en fait, je pense qu'ils pourraient aller bien plus haut, bien plus grand. Voilà, moi je donne l'exemple, excusez-moi aussi pour les auditeurs, hein, c'est où ils font grandir en eux, hein, je dirais, ce petit aigle qui est en eux, c'est-à-dire qu'ils deviendront des aigles, et pour moi c'est le symbole de la liberté qui prend de la hauteur, qui s'élève. Ou alors, malheureusement, ils font ce choix de se complaire dans une médiocrité, et c'est pas un jugement, et ils finiront comme des poulets, et certains comme des poulets sous cellophane. Et c'est ça le combat, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en fait? Est-ce que je veux me conduire comme un conquérant, un héros de ma vie, ou alors, voilà, je me contente de mon petit plaisir et de ma petite vie, comme ça. Il n'y a aucun jugement, je dirais, en fait. Qui fait la grandeur de chacun, c'est ça, c'est de prendre de la hauteur dans ce bas monde. Et malheureusement, le poids, hein, de cette tentation, hein, qui est mais vraiment H24, les empêche de s'élever. C'est ça que je veux dire.
Alors à propos des addictions, vous y consacrez donc un long chapitre que pourront parcourir tous ceux qui sont concernés directement ou indirectement. Vous parlez des causes et des remèdes. Alors on va pas avoir le temps de toutes les aborder, les causes, mais vous donnez on va dire quelques grandes entrées, les émotions blessées, nos forteresses, les esprits mauvais, la mémoire de nos sens. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces addictions, on va dire sur les grandes causes des addictions?
En fait, l'addiction, pour moi, j'aime bien cette définition. C'est une recherche de plaisir, on va dire excessif, hein, qui conduit à un moment donné à une souffrance. Et on ne contrôle pas cette recherche de plaisir. Donc, c'est-à-dire que il y a tout un premier temps un déni, hein, dans lequel nous sommes entrés. C'est-à-dire, on s'en rend pas compte, et c'est pour ça que c'est difficile, hein, d'aider quelqu'un qui est dépendant de la drogue ou qui est dépendant de la pornographie, ben, s'il s'en rend pas compte, voilà. Et souvent, les causes, hein, je dirais, du problème de l'addiction, souvent, c'est une histoire on va dire de manque quelque part, alors peut-être un manque d'amour, un ressenti en tous les cas, et d'un vide intérieur. La nature, elle a horreur du vide, donc on va compenser. Et on va compenser par cette recherche de plaisir, hein, et ces blessures. Bah, on a tous été des êtres blessés, bien sûr, hein, parce que nous sommes des assoiffés d'amour. Et si on ne ressent pas cet amour, on peut, hein, se réfugier d'une certaine manière. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, en fait, on a tellement de portes qui s'ouvrent en nous dans lesquelles on peut chercher le plaisir à fond. On est dans des temps un petit peu comme ça. Et du coup, hein, c'est un plaisir en fait qui est très éphémère, voilà. Et du coup, quand on arrive à trouver la blessure, quand on arrive à trouver la cause profonde, hein, on peut justement, bon, c'est un travail, hein, c'est un travail. Moi, vous savez, je travaille beaucoup avec des psychologues. Hein, le psychologue va guérir, hein, la foi en Christ va nous sauver. Hein, et il y a une dimension de donner un sens par rapport à la foi, c'est-à-dire trouver une motivation supérieure. Mais souvent, il y a un travail de fond, hein, parce qu'un jeune qui s'enferme dans la drogue, c'est souvent, peut-être qu'il est influencé par ses camarades, mais souvent, si on regarde bien, c'est quelque part au fond de son cœur, hein, il y a quelque chose qui il y a un ressenti, hein, d'un manque, d'une peur, d'une blessure, d'un ressenti de trahison ou je ne sais quoi, hein. Et même dans une fratrie où les parents ont aimé et ont éduqué les enfants pratiquement de la même façon, pourquoi il y en a un qui bascule, hein, dans une dépendance? Et ben, en fait, on est tous uniques et tant mieux, hein, c'est ça qui fait notre richesse. Mais peut-être à un moment donné, dans notre histoire, même à la plus petite enfance, hein, on peut avoir eu ce ressenti d'avoir une cassure, hein, qui nous a coupé d'un idéal, je dirais, et donc on va se réfugier derrière toutes sortes de dépendances. En fait.
Alors vous parlez donc de l'anorexie, des scarifications, de la pornographie, on l'a dit, mais aussi des drogues dures ou des drogues douces. Pour ce qui est des remèdes, avant les remèdes, j'aimerais qu'on reparle un peu de la dimension spirituelle de ces addictions, parce que je vous posais la question de manière provocante, mais à vous lire, une de vos convictions, c'est qu'on sous-estime en fait la dimension spirituelle de ces addictions. Dans vos causes, justement, vous parlez d'esprit mauvais. Est-ce que tout ça demande aussi, quelque part, un accompagnement spirituel? Est-ce qu'une partie de cette jeunesse est privée en fait des moyens de combattre ces addictions parce qu'on ne leur donne pas ces outils ou ces armes spirituelles?
C'est-à-dire, oui, on est aujourd'hui, on s'attaque à un problème beaucoup, hein, dans la psychologie, et c'est très bien parce qu'il y a des mécanismes, hein, des fonctionnements dans lesquels on est rentré par rapport aux addictions. Alors, je le dis aux auditeurs, hein, la scarification, la mutilation, l'anorexie, boulimie ou les troubles du comportement alimentaire, ce n'est pas une addiction, hein, mais les symptômes sont les mêmes, hein, c'est l'expression d'un mal-être profond qui va s'exprimer par un mal qu'on va se faire, hein, on va se détruire en fait, à la différence d'une addiction où il y a une recherche quand même de plaisir. Alors, pour essayer de répondre à votre question, en fait, l'être humain est par nature spirituel, c'est-à-dire on a un esprit, on a un corps, mais aussi on a une âme. Et je pense que il est important, et c'est pour ça que moi je travaille sur les trois dimensions, le corps, c'est-à-dire, hein, de pouvoir bouger, de pouvoir nous sommes des êtres créatifs aussi, c'est-à-dire nous pouvons on peut faire de la musique avec des instruments, on peut faire de la peinture, on peut se servir comme ça, et aussi nous sommes ces êtres spirituels, c'est-à-dire nous avons besoin d'orienter, hein, notre vie en donnant un sens, c'est-à-dire en s'élevant. Toutes les grandes associations, c'est-à-dire les narco-anonymes ou alcooliques anonymes, j'ai travaillé énormément là-dessus. Bien sûr, ils ne parlent pas de Dieu, mais ils parlent d'une transcendance, de quelque chose qui nous élève, c'est-à-dire quelque chose au-dessus de nous. Et c'est pour ça que on a besoin, encore une fois, on a besoin du psy, hein, c'est-à-dire tout ce qui est psychologique, mais aussi on a besoin du spirituel, hein, pour justement travailler ensemble et essayer de gagner du terrain pour donner cette motivation qui va nous permettre de sortir d'une addiction. Hein, excusez-moi l'expression, c'est pas tout à fait juste, mais quand vous rencontrez un addicto, en fait, il vous dira, il faut trouver une drogue supérieure. Alors bien sûr, ce n'est pas de la drogue, hein, mais un amour, hein, l'amour de quelqu'un, l'amour de la religion, l'amour de la patrie, l'amour des animaux, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on arrivera à s'en sortir, en fait.
Alors, vous donnez aussi des conseils très pratiques, conseils concrets donc pour vaincre les addictions. Première chose, c'est de parler, d'exprimer, de se confier à quelqu'un, reconnaître la réalité de sa situation, renoncer, apprendre à prendre de la responsabilité sur sa vie, etc. Vous pourriez nous citer l'un ou l'autre exemple parmi tous les jeunes que vous citez justement dans votre ouvrage, ou que vous avez pu accompagner aussi peut-être après avoir donné votre témoignage, parce qu'on entend dans votre livre, enfin on lit dans votre livre, que derrière il y a un peu un rôle de grand frère que vous avez joué pour certains.
Oui. Alors, bon, ça demande effectivement énormément de temps. Et c'est ça que les structures n'ont pas aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, un accompagnement, moi, la dernière personne que j'ai accompagnée, ça a mis 2 ans et demi, avec des chutes, des rechutes, Et ça demande un investissement total. C'est pratiquement appeler tous les jours. C'est appeler au téléphone. Et en fait, mais ce temps est, comment dire, est gratifiant parce que, en fait, ceux qui veulent s'en sortir vraiment, vous savez, moi, j'ai rencontré énormément de jeunes. Il y a ceux qui décident vraiment de s'en sortir. Et ben, ceux-là, j'investis tout mon temps parce que je sais qu'on va y arriver. Et puis, il y a les autres, malheureusement, hein, qui volent, mais qui, en fait, ne volent pas. Et là, bon, c'est très compliqué pour eux. Mais en tous les cas, j'ai beaucoup de témoignages, hein, ou des jeunes que j'ai réussi à envoyer dans des centres, comme le Sénacolo, par exemple, un centre où on peut décrocher, ou comment que ça s'appelle, Saint-Jean-d'Espérance, c'est pareil, qui s'occupe de jeunes toxicomanes, ou d'autres structures. Il y a d'autres structures, des fois, une famille d'accueil, ou trouver un sens à sa vie. Voilà, il y a eu quand même pas mal de témoignages de jeunes qui s'en ont sortis totalement. Maintenant, il y en a qui malheureusement sont encore dans le combat. Hein, pour certains, c'est un combat perpétuel. C'est vraiment. Et moi, je suis là. Vous savez, pour vous donner juste un exemple, aujourd'hui, hein, il y a une jeune fille qui en mode hôpital psychiatrique, maison, enfin foyer, hôpital psychiatrique, ben, tous les jours, je lui envoie un petit message. Mais ce message, pour elle, c'est vital. Il y a quelque chose comme ça. Donc, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais je pense que c'est mon rôle aussi, et c'est le rôle oui, comme vous avez dit, de grand frère, en fait.
Et ben voilà, c'est votre trafic d'amour, comme vous dites. Et puis,
Trafic d'amour, oui.
je finirai en citant à nouveau Benoît XVI, que vous citez vous-même. Le secret de la foi consiste en ceci: pour rencontrer Dieu, il faut rencontrer quelqu'un qui l'ait rencontré. Troubadour d'espérance, de l'addiction à la mission, c'est le titre de votre ouvrage, Laurent Guay, paru aux éditions des Béatitudes. Un grand merci à vous.
Merci à vous, merci à tous les éditeurs.
Cette émission était
Tous les auditeurs, pardon.
réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.